Bonjour Denise, bon matin à vous aussi. Alors on va prier. Juste que je prenne ma Bible qui est un peu plus loin. J'ai oublié de l'approcher. Voilà. Donc on va prier pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette autre belle occasion que tu nous donnes pour plonger nos regards dans ta parole. Une occasion pour recevoir les bénédictions que tu as préparées de toute éternité pour nous. Une occasion aussi pour nous rappeler la grâce et l'affection, Seigneur, que tu témoignes envers nous jour après jour. J'appelle, Seigneur, ton repos, ta grâce, ta bénédiction, ton onction sur ce moment que nous allons passer. J'appelle, Seigneur, ta lumière pour éclairer nos pensées, éclairer notre cœur, notre âme, notre esprit. En fait, Seigneur, que ta parole puisse illuminer notre être tout entier, afin, Seigneur, que nous recevions favorablement ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui, et que nous puissions, Seigneur, nous en délecter, en tirer, Seigneur, tous les bienfaits, tous les profits pour lesquels, Seigneur, cette parole est envoyée. Ta parole nous dit que cette parole ne retourne jamais à toi sans avoir porté le fruit pour lequel elle a été envoyée. Donc je prie effectivement que dans la vie de ma sœur, de mon frère, dans ma propre vie aussi, que cette parole suscite des fruits en abondance et un fruit qui t'est agréable jusque dans l'éternité. Alors merci pour ce moment. Prends soin de nous, bénis-nous, visite-nous, touche-nous, instruis-nous. Nous t'avons prié dans le tout précieux nom de Jésus. Amen. Alors, voici la parole pour ce matin, toujours dans Ésaïe au chapitre 61, le verset 1 et le début du verset 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. Ça a été la partie du verset qui a été à la base de toute notre réflexion cette semaine. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la liberté. On a parlé bien sûr lundi du fait d'être envoyé, le terme shalak, de ce mandat précis que Dieu nous donne pour être des porte-voix, des héros qui proclament aux captifs et qui va vers le captif pour proclamer la liberté. On a parlé le mardi d'un terme qui m'est très cher, le terme kara, qui veut dire proclamer, invoquer, qui nous parle de ce témoignage oral, verbal que nous rendons auprès de notre prochain, de nos prochains, quant à la liberté que Dieu veut leur accorder. Hier, on a parlé de la question des captifs. Ça a été l'occasion aussi pour inviter ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, qui se sont soit éloignés pendant un certain temps des voies du Seigneur, ou qui peut-être font connaissance avec Dieu actuellement, à vraiment lui laisser, lui abandonner leur existence et leur vie. Et aujourd'hui, on parle donc du terme « liberté », qui est en hébreu, bien sûr, qui se retrouve dans cette formule 8 fois dans les textes bibliques. Donc, ce n'est pas nécessairement un terme qu'on va traduire par « liberté » qui est très courant, puisqu'habituellement, on prend une autre terminologie. Aujourd'hui, le terme qu'on étudie, c'est le terme « déroar »,« déroar ». Excusez la prononciation, donc je l'appelle pour vous, parce que c'est un peu plus compliqué. D-E-R-O-W-R. Donc, je répète, D-E-R-O-W-R. Et ça apparaît donc 8 fois dans l'Ancien Testament. Et lorsqu'on prend le sens imagé de la chose, cette liberté de laquelle on parle ici est souvent associée avec quelque chose d'aquatique, oui, avec une question qui a trait à l'eau. Les cinq termes qu'on va mentionner ce matin, qui sont comme des déclinaisons du terme liberté qu'on a ici, c'est quelque chose qui coule à flot, comme premier terme. Deuxièmement, quelque chose qui a libre cours. Troisièmement, quelque chose qui déborde. Quatrièmement, le terme liberté en tant que tel. Et cinquièmement, le terme pureté. Donc, qui coule à flot, libre cours, débordant, liberté, pureté. Je prends le temps d'énumérer ces termes-là parce que je sais que plusieurs d'entre vous prenez des notes en même temps, donc pour faciliter votre prise de notes. Alors, ce matin, allons avec chacun de ces termes et voyons ce que ça représente et voyons l'offre qui nous est faite par le Seigneur quant à la liberté qui émane de lui. Très souvent, lorsque on prend un engagement, on est intéressé à savoir, mais en quoi ça nous lie, qu'est-ce que ça nous rapporte, même si je crois que de façon instinctive, on devrait savoir que tout ce qui émane de Dieu est bon et parfait, et que tout ce qu'il fait envers nous est rempli d'amour et de passion à notre égard. Donc nécessairement, les traitements de Dieu à l'égard de ses enfants sont toujours pour le bien de ceux-ci, sont toujours profitables pour ceux-ci. Alors, couler à flot comme sens de liberté. Donc, on est envoyé pour proclamer à des gens qui sont captifs, à des gens qui sont prisonniers, que Dieu veut leur accorder une liberté qui s'apparente à quelque chose qui coule à flot. Ici, dans cette notion aquatique, couler à flot, on a cette différence entre la vie du captif et la vie de celui qui est libéré. La vie de celui qui est encore dans les chaînes du péché versus la vie de celui qui a été régénéré par la présence et par la puissance de Dieu. Et ici, on parle donc de deux états distincts. Un premier état, si on ne coule pas à flot, c'est donc qu'il y a une certaine sécheresse, il y a une pénurie de l'eau. Lorsqu'un cours d'eau coule à flot, ça veut donc dire qu'il est là en abondance, que la terre qui l'environne est bien altérée. La Bible nous dit dans le psaume 1, et on le reprend par la suite dans Jérémie, que celui qui craint l'Éternel est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et on nous dit que son feuillage va fleurir, va rester verdoyant, même dans la période de sécheresse, et qu'il va porter du fruit en sa saison. Donc, ça veut dire que celui qui n'est pas planté près du courant d'eau, donc celui qui ne craint pas Dieu, ne connaît pas cette abondance d'hydratation, on va dire, qui vient de la part de Dieu. Donc, une des différences entre celui qui craint Dieu et celui qui n'a pas Jésus comme Seigneur, c'est une différence au niveau de la sécheresse ou de l'altération de sa vie. Donc, sécheresse spirituelle pour celui qui ne craint pas Dieu. Et plus on passe du temps dans la présence de Dieu, plus on est à proximité du Seigneur, plus nos racines prennent de la longueur et s'allongent vers ce courant d'eau qui est juste à nos côtés et duquel on peut s'abreuver, plus notre feuillage verdit et plus on est donc un arbre fertile. Donc la grosse différence dans ce premier terme, la différence entre la sécheresse et être un arbre verdoyant ou être dans une terre bien altérée. Ça veut donc dire que lorsque je suis captif et que je viens à la liberté, je passe aussi de la sécheresse spirituelle, de la mort spirituelle, vers une terre bien altérée, vers une vie qui est tout à fait sous les auspices bienveillant de Dieu. Donc, premier terme, coulant à flot, ce passage du captif vers la liberté, ce passage de la sécheresse vers une terre bien altérée. Deuxième transition qui s'opère, ce matin on va voir 5 transitions. Donc deuxième transition qui s'opère, lorsqu'on parle de la liberté qui nous est accordée ici, on parle de quelque chose qui a libre cours. Donc quelque chose qui n'est pas stagnant, quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. On s'entend que la vie d'un captif, la vie d'un prisonnier est quelque chose de très monotone. On sait qu'à telle heure on nous réveille, qu'à telle heure on peut aller déjeuner, qu'à telle heure on retourne dîner, qu'à telle heure on va prendre le souper et qu'à telle heure les portes de la cellule vont se fermer et qu'à telle autre heure il y aura couvre-feu, donc les lumières qui vont s'éteindre. La vie d'un prisonnier, de par son incarcération, est segmentée, fragmentée par section, et il y a une monotonie jour après jour. Si la peine est d'un an, mais pendant un an, son quotidien va pratiquement toujours être le même. S'il dure 10 ans, son quotidien pendant 10 ans est réglé à la seconde près, et ils ne doivent pas, ils ne peuvent pas en déroger. Donc ici, on parle d'une stagnation, et rappelons-nous, hier, lorsqu'on a parlé de ces captifs, on a vu quelque chose ou quelqu'un qui a une mode de vie stagnante et qui va en dégénérant. On a vu que le péché ne fait que aggraver constamment notre situation. On va de mal en pis lorsque notre vie et dans le péché. Contrairement à l'exhortation, à l'invitation qui nous est lancée dans le Nouveau Testament notamment, d'aller de progrès en progrès. C'est une thématique récurrente dans le Nouveau Testament où on nous disait que Jésus grandissait devant Dieu et devant les hommes en stature et en sagesse. On va voir Paul dans ses écrits qui va dire d'aller effectivement de progrès en progrès. Paul qui va exhorter Timothée à un moment donné en lui disant que tes progrès soient visibles de tous. Donc la vie chrétienne est supposée aller non pas en stagnation, non pas en régression, mais aller en progrès, de progrès en progrès. Plusieurs trouvent que la vie chrétienne est monotone et est ennuyante, mais la plupart du temps, cette vie monotone et ennuyante, c'est parce qu'on n'expérimente pas effectivement le progrès dans lequel ou par lequel on doit vivre notre vie. Donc notre relation avec Dieu n'est nullement supposée être au point neutre ou au point stagnant, la même chose depuis 10 ans, la même chose depuis 20 ans, la même chose depuis 50 ans. En fait, notre relation avec Dieu devrait être celle de quelqu'un qui découvre le Seigneur et qui, jour après jour, de par la proximité et l'intimité qui s'accroît dans la présence de Dieu, qu'on puisse découvrir des facettes nouvelles de Dieu, qu'on puisse découvrir une relation toujours plus ample, plus intime avec notre Seigneur. Donc ici, libre cours, c'est de passer de cette stagnation qui finalement aboutit dans une dégénération, donc une stagnation qui nous fait décroître et dégénérer spirituellement, et passer plus tôt, lorsqu'on passe de cette captivité à la liberté, dans une relation qui nous mène de progrès en progrès. Voilà le plan que Dieu a pour toi. Peut-être que si tu as déjà expérimenté le Seigneur, que tu t'en es éloigné, c'est peut-être parce qu'aussi tu n'étais pas dans ce type de relation où effectivement tu allais de progrès en progrès avec Dieu. Peut-être que le péché est rentré, peut-être que des mauvaises décisions ont été faites, peut-être que certains efforts dans lesquels on est invité à se placer, ou des efforts dans lesquels on est invité à fournir plutôt, peut-être que ces efforts d'une hygiène de vie spirituelle n'étaient pas là, qui t'aurait permis effectivement d'expérimenter Dieu, de découvrir Dieu de mieux en mieux chaque jour. La Bible nous dit qu'il se laisse découvrir par ceux qui le cherchent. Et très souvent, la non-découverte de Dieu vient du fait qu'on ne le cherche pas. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il se laisse découvrir par celui qui le cherche. Et cette découverte, plus je le cherche, plus il se laisse découvrir et plus je suis émerveillé par ce que j'apprends de sa part et en sa présence. Donc, coulant en flot, libre cours. Deuxièmement, débordant. Et là, c'est un peu cette image de la coupe dans laquelle on verse de l'eau ou un liquide, et à un moment donné, le contenant vient à saturation jusqu'à un point où la satiété fait en sorte que ça déborde même. On la remplit complètement, mais Dieu continue à verser, à verser, à verser, et ça déborde sur les bords du contenant, sur les pourtours de la coupe, et ça se répand sur la table. Un peu comme un ruisseau qui, dans la saison des pluies, va regorger, va empiéter sur les berges, va prendre une ampleur plus grande à cause de l'afflux d'eau qui a été déversé de par la pluie, de par la fonte des neiges. Et on voit ces ruisseaux qui étaient minuscules en plein cœur de l'été, lorsqu'il fait très très chaud, lorsqu'il y a canicule, mais rendus au printemps après un hiver et après une saison de pluie, ben on voit ce ruisseau qui déborde ici. On parle aussi de la ration du captif, la nourriture du captif qui est limitée, qui est proportionnée dans la prison. Mais cette ration, lorsqu'on devient libre, lorsqu'on expérimente la liberté, on se rend compte que notre portion est à la limite de la grâce et de la bonté de Dieu. Il y a juste une chose avec laquelle on ne peut pas faire une indigestion, et c'est la présence de Dieu, la parole de Dieu, la connaissance de Dieu, l'intimité avec Dieu. Ça, on ne peut pas faire un excès de table avec ça. On est même appelé à en profiter pleinement jour après jour. Une petite gorgée. Donc ici, on parle donc qu'on passe d'une ration réduite, limitée. Le prisonnier n'a pas nécessairement un choix de repas qu'il coche le matin en disant « j'aimerais manger du filet mignon, puis après ça, j'aimerais que ça soit accompagné avec tel légume, puis comme dessert, j'aimerais avoir tel dessert fancy et tout ça. » Le prisonnier, il mange ce qu'on lui donne. Il mange ce que les dirigeants de la prison ont décidé de lui donner. Toutefois, lorsqu'on devient libre, on est aussi libre de manger autant qu'on veut, de se délecter autant qu'on veut et de manger aussi des choses qui nous sont agréables. Ce n'est plus un menu qui nous est imposé, mais ce sont des mets qu'on se prépare, des mets qu'on acquiert, qu'on décide et qu'on choisit par nous-mêmes. Donc, on passe d'une ration de captif à une providence. Donc, la provision qui vient de Dieu. Providence, c'est ce que ça veut dire, une provision émanant de Dieu. On passe donc de la ration du captif, du menu limité du captif, vers un menu beaucoup plus riche, beaucoup plus opulent, qui nous vient de la part de Dieu. L'autre transition qui se passe avec le terme liberté, tout court et tout simple, tel qu'on le connaît dans notre langage habituel, on passe donc des chaînes et des liens vers une situation où ces chaînes sont tombées, où ces liens sont tombés, où les boulets qu'on avait aux pieds nous lâchent, tombent, sont défaits. Donc, on se rappelle, on parle du captif, donc du prisonnier, le prisonnier qui est limité à l'espace qu'il peut fréquenter, aux endroits où il peut se déplacer, au moment auquel il a le droit aussi d'accéder à telle pièce ou à tel secteur, alors que celui qui est libre, la terre est son marchepied. La terre est la limite physique, en fait, de là où il peut aller. Donc, on passe de cet enchaînement, de cette limitation, vers des horizons vastes, opulents, que Dieu ouvre pour toi et pour moi. Lorsque nous venons à servir Dieu, on se rend compte que le Seigneur ouvre des portes insoupçonnées, des territoires insoupçonnés dans lesquels on peut le servir, dans lesquels on peut expérimenter sa grâce, dans lesquels on peut expérimenter de nouvelles choses dans nos vies. Et dernier terme qu'on voit ce matin, la pureté. Le captif, le prisonnier, et c'est peut-être encore plus frappant avec les événements qui sont survenus ces derniers jours. Vous savez que hier, il y a eu quelqu'un qui a été libéré d'accusations très, très graves qui étaient portées contre lui depuis environ une semaine. Un jeune homme qui avait été accusé d'avoir attenté à la vie d'un policier. Et il s'avère que, vu des caméras du ministère des Transports, on se rend compte que la première interprétation des faits qui avait été apportée était erronée. Et cet homme a été libéré, donc hier soir, alors qu'il se présentait devant le juge pour une comparution sommaire et préliminaire. Tout a été abandonné, toutes les charges ont été abandonnées. Et la personne a donc été libérée sur le champ. Mais vous imaginez un peu quelle a été l'inquiétude, quelle a été la honte qu'il a portée pendant 7 jours. Pendant 7 jours, il avait le statut de condamné, il avait le statut de coupable, il avait le statut d'un prisonnier qui a fait une mauvaise action. Et aujourd'hui, on le libère de toutes ces accusations, on le libère de tous les regards péjoratifs qu'on portait vers lui, tous les doigts pointés contre lui, on le libère de toutes ces accusations et il est maintenant un homme libre. Lorsque nous passons du statut de captif à statut d'homme libre, on passe aussi de la honte du condamné à la sainteté du racheté. On passe de ce statut où nous étions pécheurs, condamnables et condamnés, et on passe donc à un statut où nous avons été purifiés, sanctifiés par Dieu. À travers quoi? À travers le paiement de notre dette, à travers le paiement pour notre culpabilité via la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'est une notion importante. Contrairement à ce qui s'est passé hier, où on dit, non, ce jeune homme n'a pas commis les actes qu'on lui reproche, dans le cas de ce texte biblique où on passe comme nous, comme vous, comme moi, comme tous les croyants, où on passe de ce statut de coupable à ce statut de pardonné, nous sommes toujours des gens qui avons effectivement fait ce qui était mauvais. Nous sommes effectivement, à juste titre, accusés, coupable, trouvé répréhensible devant Dieu. Et il fallait qu'un prix soit payé. Ça veut dire qu'on n'a pas fait fi de notre méfait. On n'a pas fait fi de notre iniquité. Quelqu'un a eu à payer. Quelqu'un a porté le jugement. C'est comme si vous êtes accusé d'une fraude et quelqu'un vient dire au juge, « Regarde, monsieur le juge, j'aimerais, moi, porter le blâme de cette action à la place de cet homme. Je sais que c'est lui qui l'a fait. Je sais qu'il est coupable devant vos yeux. Je sais qu'il est coupable devant la société. Mais moi, j'aimerais offrir ma vie pour payer à la place de cet homme-là et prendre sa place en prison ou face à l'acte qui doit être accompli pour qu'il soit pardonné. » Donc, pour le restant de sa vie, effectivement, cette personne saurait que oui, j'ai mal agi, oui, j'ai commis des choses mauvaises, mais quelqu'un m'a effectivement pardonné en payant pour ma faute, pour ma culpabilité. Mais une fois que le prix est payé, que ce soit toi qui l'as payé ou quelqu'un qui l'a payé à ta place, à ce moment-là, tu es affranchi de la culpabilité. Et c'est ce qui se passe avec notre Seigneur. Nous sommes affranchis de la culpabilité qui accompagnait notre faute, notre iniquité, parce que notre Seigneur nous a sauvés. Et voilà pourquoi il est important de passer du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Parce que si tu restes dans le royaume des ténèbres, le diable ne fera que te dire « tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable ». Même une fois qu'on est rentré dans le royaume de Dieu, même une fois qu'on marche dans les voies du Seigneur, même en sachant que nous avons été pardonnés par le Seigneur qui a pris notre faute sur lui, qui a pris notre iniquité sur ses épaules, le diable continue à nous rappeler les mauvaises choses que nous avons faites, continue à nous rappeler combien nous étions autrefois mauvais et tout ça, tout simplement pour mettre une culpabilité sur nous. Et voilà pourquoi il est important d'avoir une coupure drastique, une coupure nette avec le diable et avec le royaume des ténèbres pour aller dans le royaume de Dieu, parce que Dieu ne ramènera pas devant nous le fait que nous étions autrefois coupables. Nous le savons. Toi et moi, nous le saurons pour l'éternité qu'on a été bénéficiaire de la grâce de Dieu. Mais Dieu n'est pas là en train de te dire « Hey, j'aimerais que tu te rappelles, moi je t'ai pardonné. Hey, j'aimerais que tu te rappelles, tu étais mauvais, j'ai fait ce qui devait être fait. » La Bible nous dit que lorsque le Seigneur nous pardonne, il prend cette faute et la lance dans la mer de l'oubli. C'est la culpabilité, c'est l'accusation, c'est la condamnation qu'il envoie dans la mer de l'oubli. Moi, je prie que je n'oublie pas, par contre, dans ma tête, que le Seigneur m'a pardonné, que le Seigneur m'a racheté. Je ne veux pas l'oublier pour me rappeler combien je lui dois reconnaissance et action de grâce et combien il mérite toute mon affection, tout mon amour, toute ma passion et toute ma vie pour m'avoir sauvé. Mais aussi, je veux me rappeler pour ne pas retomber dans les erreurs d'hier, pour ne pas retourner aux fautes d'hier. Et je veux me rappeler pour ne jamais être ingrat et savoir que si je suis qui je suis aujourd'hui, si je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est à cause de la grâce, la merveilleuse grâce, la toute-puissante grâce, la pleine grâce de Dieu dans ma vie. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu donc le terme « liberté », ce qu'on proclame aux captifs et qui est effectivement cette capacité à passer de la sécheresse spirituelle, de la mort spirituelle vers une terre qui est bien altérée, vers une terre qui est fertile, donc de passer de la mort à la vie. On a parlé aussi de libre cours, donc de passer de cette stagnation dans laquelle nous n'allons que de mal en pis, pour passer à cette vie où nous allons de progrès en progrès avec Dieu. On passe aussi dans une vie d'abondance, on déborde, la grâce de Dieu déborde de nos vies, donc on passe de la ration limitée qui nous était impartie étant captif, à cette abondance de la provision et de la providence de Dieu. On passe par la suite de la liberté, de la captivité à la liberté dans le sens où nos liens, nos chaînes, nos boulets tombent pour passer dans une vie complètement émancipée, dans une vie affranchie, dans une vie libre et dans une vie dans laquelle la liberté est si importante que nous devenons nous-mêmes des annonceurs, nous-mêmes des porte-voix, nous-mêmes des gens qui publient la liberté aussi que nous pouvons avoir en Dieu. Et enfin, nous passons de la honte du condamné, de la honte et de la culpabilité du condamné à cette sainteté et à cette pureté et à ce rétablissement, cette restauration de l'honneur dans ta vie et dans ma vie parce que j'ai été pardonné, gracié par le plus grand des bienfaiteurs que l'histoire de l'humanité ne connaîtra jamais, Christ Jésus, ton Sauveur, mon Seigneur. Alors ce matin, prenons simplement un petit moment pour rendre grâce à Dieu pour terminer. Alors oui, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, de ce que tu changes notre terrain asséché, notre désert spirituel en une terre bien altérée. Merci, Seigneur, de ce que tu nous éloignes de ces façons de faire, de ces coutumes, Seigneur, à travers lesquelles nous stagnions et nous étions dans une dégénérescence constante pour nous amener dans une vie où nous progressons, où nous allons de progrès en progrès et de gloire en gloire. Merci, Seigneur, de ce que notre menu spirituel qui était limité, qui se limitait à la ration qu'on donne à un captif, et maintenant, Seigneur, une providence abondante, une provision qui mène, qui vient, qui émane directement du trône de grâce de notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous permets aussi de voir les chaînes tomber, les portes des prisons s'ouvrir. Tu nous permets de voir, Seigneur, les boulets tomber de nos chevilles afin que nous puissions courir dans cette plénitude de la liberté que tu nous accordes, courir à ton service, courir, Seigneur, à proclamer l'Évangile dans des territoires, dans des domaines, dans des endroits auprès de personnes qu'on n'aurait jamais cru pouvoir atteindre. Et c'est à cause de ta grâce et simplement que ta grâce. Merci aussi, Seigneur, parce que tu as enlevé de nos vies la honte de la culpabilité, la honte de notre condamnation, vers des vêtements qui ont été restaurés. Mieux encore, Seigneur, du prisonnier que nous étions, de ce statut de captif que nous avions, tu nous permets aujourd'hui d'être des fils, des filles du roi des rois. Tu es venu nous chercher en prison. Tu es venu nous chercher dans la cellule de notre culpabilité, de notre condamnation, pour nous asseoir à tes côtés dans la gloire de Dieu, pour nous asseoir comme enfants du roi des rois, comme princes et princesses dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ma sœur. Merci pour mon frère. Que cette joie, Seigneur, nous habite tout au long de cette journée et que nous puissions nous aussi proclamer cette liberté aux captifs qu'il y aura sur notre chemin aujourd'hui. J'appelle ta bénédiction, ta joie, ta paix, ton allégresse dans la vie de ma sœur ce matin et dans la vie de mon frère. Nous t'avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, juste quelques salutations pour terminer ce matin, des gens qui se sont connectés avec nous après nos premières salutations. Donc, je remonte un peu. Bonjour à Manon, que Dieu vous bénisse. Bonjour Julie, soyez bénie. Bonjour à la tante de mon épouse, donc tante Luce. Nice to have you with us this morning. I don't know why last time your name did not appear, but today I see you. So hello to tante Luce in New York. Bonjour Tatiana, sois bénie. Bonjour Ramon, bonjour Evelyne. Bonjour à Nadia, bonjour à ton époux et bonjour à mon bon ami Josh, que Dieu le bénisse abondamment. Fais-lui un gros câlin de ma part. Bonjour à Steve Hamelin, bonjour à Diana, bonjour à Eric, bonjour à Jean-Gilbert, à Ozanie, bonjour à Tina, à Christophe et aux enfants, bonjour à la sœur Nina, au frère Rigoberto. Bonjour à Gérard et Denise, bonjour à Daniel, là c'est Daniel Le, donc bonjour Daniel, soyez béni. Qui d'autre? Bonjour à Eric, sois béni Eric, content de t'avoir avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette parole de ce matin vous a greffé un sourire au visage. Combien il est bon d'être dans la présence du Seigneur. Combien il est bon d'être sous les auspices de notre Dieu. Je vous souhaite une très, très bonne journée, une merveilleuse journée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et on se retrouve demain, c'est notre journée de jeûne. Donc, à deux reprises demain, on sera ensemble. Demain matin à 8h30. Et puis, demain soir à 19h pour notre temps d'intercession et de requête. Et ceux qui veulent, vous savez, pour l'Église, on a décrété que le vendredi, c'était journée de jeûne et de prière. Donc, si vous en avez la capacité, si vous en avez le désir, donc on vous invite à être dans le jeûne et dans la prière demain. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Et on se revoit donc demain matin et demain soir. Bonne journée à tous.